Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour une autre édition de cette émission hebdomadaire. Et merci d'être à l'écoute cette semaine. Nous revenons sur l'actualité politique dans un instant avec le duo des Frédéric cette semaine, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe. Un peu plus tard, nous jasons avec Christian Dufour, le politologue et auteur que vous connaissez bien, au sujet de ce texte qu'il a fait paraître dans la presse récemment intitulé « Nous ne sommes pas Américains ». Voilà juste le titre déjà nous porte à réfléchir. On va aller un peu plus, on va bien sûr creuser ce sillon avec Christian Dufour. Et puis en fin d'émission, Nicolas Vidal en direct de Paris nous fait un peu le point sur l'actualité française. Quand on regarde ce qui se passe là-bas, parfois ça nous, en ce qui a trait à la pandémie particulièrement, ça nous annonce un peu ce qui s'en vient ici. En tout cas, ça a été comme ça pendant les 6 ou 7 derniers mois. Espérons que ce qui se produit là-bas ne s'en vient pas trop ici, cela dit, mais on va vérifier tout ça avec Nicolas Vidal dans quelques instants. Alors, il est chroniqueur au journal Métro, il est juriste, il est aussi d'ailleurs, disons-le en toute transparence, parmi les avocats des plaignants dans la cause là, contre la loi 21. On va y revenir pendant la chronique. Je parle de Frédéric Bérard, bien sûr. Bonjour Frédéric Bérard. Et Frédéric, l'autre, Frédéric Lapointe, est avec nous également, fondateur de la Ligue d'action civique et militant du Parti québécois, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin, ou ce midi, je dis tout le temps ce matin parce que je suis un couche-tard. puisque j'en parle de la loi 21, tiens, complétons, on va faire comme le lien avec l'émission de la semaine dernière, Frédéric Bérard, parce que je vous avais dit que vous pourriez en parler. Il y a une intéressante... on va faire juste un petit topo là-dessus, parce que même si vous, ça vous met dans une drôle de position, c'est quand même dans l'actualité cette semaine, même si on n'en parle pas encore beaucoup, on peut imaginer qu'on en parlera davantage dans un futur proche. Alors, j'allais dire qu'il y a une symétrie intéressante parce qu'on avait Guillaume Rousseau la semaine passée qui, lui, est du côté de ceux qui sont en faveur de la loi 21 dans cette cause-là. Et on lui a demandé de nous parler de façon dépassionnée, là, relativement objective, j'espère, des témoignages qui ont été entendus la semaine dernière, donc qui étaient ceux des gens qui s'opposent à la loi 21. Et puis, ben voilà que vous, Frédéric Bérard, vous pourriez nous parler un peu de ce qu'on a entendu cette semaine, c'est-à-dire les gens qui sont en faveur. Qu'est-ce que ça vous a donné comme impression ou comment pouvez-vous nous résumer ça?
Moi, j'ai le goût d'aller ailleurs, Nick. Vous me direz ce que vous en pensez.
Ben, allez-y.
Parce que les témoignages, évidemment, c'est long, c'est fastidieux. Puis je veux pas influencer le tribunal non plus. Tout ça est public, hein. Par exemple, si les gens veulent assister au procès, ils peuvent le faire. Moi, je vais juste répondre, peut-être que ça va vous intéresser davantage, en tout cas, vous me direz, mais un argument que je trouve assez fallacieux, pour pas dire vicieux, qui est celui de dire, si tu attaques la loi 21, t'es un multiculturaliste, puis là, ils ont sorti le truc de... C'est Joseph Facal cette semaine dans une chronique, mais absolument épouvantable, en disant c'est David contre Goliath. Goliath étant nous, apparemment.
Ben parce David, que vous êtes du côté du gouvernement fédéral avec ses moyens illimités. Ça, ce sont les mots de Joseph Facal.
Ben, et le gouvernement fédéral, là, il n'est pas là. À un moment donné, il va falloir arrêter de niaiser, là. Il n'est pas là, le gouvernement fédéral. Arrêtez de déconner.
Bon, mais est-ce qu'il est là en sous-main, comment dire, en argent, en sous-main?
Ben non. Moi, j'ai rien reçu du fédéral. En tout cas, si jamais il y avait des sous disponibles, vous me le direz, je n'irais pas ça.
Ah, si on reçoit une enveloppe ici pour vous, une enveloppe brune, je vous en parle. Je vous ferai faire le message par personne interposée.
Oui, c'est ça, c'est gentil. Mais tu sais, il faudrait arrêter de déconner aussi. David contre Goliath. Goliath, c'est quoi? C'est une fédération d'enseignement, parce que moi, c'est ma cliente, Fédération d'enseignement du Québec. Ça, c'est Goliath. Puis David, le pauvre petit David, chez l'État du Québec, pauvre petit pit. Son 6 proc- procureurs de l'autre bord. Peut-être qu'il y en a qui font de la recherche dans le bureau. En plus, on justice plus bon. Le mouvement laïque de Rousseau.
Alors, va pour David contre Goliath, mais vous avez dit quelque chose d'intéressant au début. Pas que ça soit pas intéressant, mais vous avez dit le multiculturalisme. Vous voulez pas vous faire enfermer dans la case. Vous pensez que le débat est trop binaire. Autrement dit, vous voulez dire que c'est pas parce qu'on s'oppose à certains pans de la loi 21 qu'on est forcément multiculturaliste. Alors, comment feriez-vous la distinction?
Parce que l'argument, là, c'est le multiculturalisme à la Trudeau, évidemment, si on l'a compris. Sauf que, est-ce que ces gens-là, moi, ça me dérange pas que les gens qui connaissent pas le droit parlent de droit, mais encore faudrait-il avoir un minimum de rigueur pour pas dire des conneries. Dans un Québec indépendant, là, est-ce qu'il y en aurait eu un recours sur la loi 21? Ben moi, je vous garantis que oui. Savez-vous pourquoi? Parce que, sauf erreur, il y aurait encore une charte québécoise. Et le recours, actuellement, est aussi pris en vertu de la charte québécoise, autant que de la charte canadienne.
Oui, et la disposition de... La disposition de dérogation est utilisée dans les deux chartes, si je comprends bien, hein,
voilà.
Aussi.
C'est exact. Mais il y a un recours quand même en vertu de la Charte québécoise parce qu'il y a d'autres dispositions potentielles et ainsi de suite. Mm-hmm. Même chose pour la Charte canadienne. En d'autres termes, sans Charte canadienne, ce recours-là pourrait exister quand même. À moins que vous me dites que dans un Québec indépendant, vous ne voulez plus vivre dans une société de droit, vous ne voulez plus qu'il y ait de contrôle judiciaire, vous allez sacrer la Charte québécoise à bout de bras dans le shredder, puis that's it, puis on va laisser Simon-Jolin Barrette décider ce qui est bon en droit en tout temps. Si c'est ça votre conception, la démocratie basée sur un état de droit, moi c'est drôle, ça m'intéresse pas pantoute, mais vraiment, vraiment pas. Alors le lien entre le multiculturalisme, c'est ça, moi dans mon cas très précis, là, c'est la Fédération autonome d'enseignement du Québec. Savez-vous quoi? Ils ont 50 quelques mille membres, et ils ont une obligation légale de défendre des membres qui, là, actuellement, du fait de la loi 21, sont bloqués à l'intérieur même des infrastructures. Ils ne peuvent pas avoir de promotion.
Oui, alors c'est en train de me dire que ce syndicat-là en particulier ici n'est pas nécessairement en train de prendre position en faveur du multiculturalisme, par exemple, pour transposer votre propos.
Absolument pas. Puis de toute façon, je veux dire, même si c'était le cas, là, c'est pour ceux encore là, qui ne connaissent pas ça, là, allez lire l'article 43 de la Charte québécoise, avant de dire des conneries. L'article 43 de la Charte québécoise, là, ben, c'est une clause sur le multiculturalisme. C'est drôle, elle est dans la Charte québécoise. C'est pas Trudeau qui a inventé ça. La meilleure preuve, c'est que la Charte québécoise est née avant la Charte canadienne. Ah, mais ça, faut pas le dire, ça, parce que c'est bien plus pratique de dire que c'est la faute de Trudeau, l'argent du fédéral, David contre Goliath. Ceux qui gueulent en plus, ouais, mais là, la Charte canadienne n'a jamais signé ça, j'ai vu Jean-François Lisée faire un tweet là-dessus la semaine passée. Ben, des petites nouvelles pour vous. La dérogatoire qui est utilisée, là, ben, est utilisée dans la Charte canadienne.
Dans la Charte,
hein?
Oui, c'est ça. Maître Bérard, vous avez épuisé votre temps de parole. Frédéric Lapointe, si vous êtes pas parti en courant, dites-nous donc.
il y a plusieurs choses intéressantes.
Alors, le multiculturalisme, là, dites-moi ça. Est-ce que vous faites le lien, vous?
Un petit angle sur la FAE. La FAE fait son travail, elle défend ses membres, et elle le fait dans ce dossier-ci, même si la majorité de ses membres, lorsqu'on les sonde, sont favorables, par ailleurs, à la loi 21. Mais ça, c'est la réalité d'un syndicat. Il a à défendre les intérêts de ses membres dans des dossiers qui concernent leur embauche. Et donc, effectivement, on peut pas dire que ce syndicat est multiculturaliste par définition, puisque même la majorité de ses membres appuie le projet de loi 21. Mais c'est vrai que dans un Québec souverain, la situation aurait été, la question juridique aurait probablement été posée de la même façon. Mais ces questions-là, si elles se retrouvent devant des juges, c'est pas simplement parce que on a besoin d'ouvrir un texte de loi et de regarder c'est quoi, qu'est-ce qui est écrit pour savoir exactement ce qu'on doit faire. Je suis pas avocat, je tiens à le mentionner, mais l'interprétation des lois, l'établissement du droit, il y a une grande zone de gris. On établit ce qui est raisonnable. Il y a des limites à la plupart des principes qui sont en concurrence les uns entre les autres. Et le problème, quand on est dans une fédération canadienne, c'est qu'on se retrouve ultimement devant des juges qui ont été sélectionnés par d'autres instances politiques, qui sont eux-mêmes habités de courants d'idées, de courants politiques, qui changent au fil du temps, c'est tout à fait normal. Parfois, ils sont imprudents et ils se mettent à militer en dépit de militer, prononcer des conférences devant des groupes.
Vous parlez de la juge Duval-Esler, par exemple.
Exactement. Exactement. C'est un cas, mais il y en a d'autres. Et c'est pour ça qu'on veut que les juges aient un devoir de réserve, pour qu'on puisse croire que leur jugement est objectif. Et donc, même si les lois peuvent être les mêmes, même si la Charte québécoise est très, très, très proche de la Charte canadienne. Il reste que c'est un problème de pouvoir entre des communautés, des nations, des gouvernements distincts. Et dans ce cas-ci, même si moi, je pense que la Cour va être très prudente dans le dossier de la loi 21, que des gens s'inquiètent qu'ultimement ce soit jugé dans une cour qu'ils considèrent étrangère, ben oui, il y a là quand même le même objectif.
Mais attendez, Frédéric Bérard, Frédéric Bastien, Bastien, c'est parce que vous avez parlé de la juge Duval-Esler qui avait été la cible de Frédéric Bastien, l'historien. Bon, Frédéric Lapointe, voilà. Celui qui est à un Fred d'être un chanteur rock. Est-ce que vous pensez quand même que même si on comprend là, que Frédéric Bérard ne veut pas être un multiculturaliste, ne veut pas se faire étiqueter comme ça parce qu'il s'implique dans cette cause, est-ce que vous considérez qu'il y a quand même ce débat-là, en filigrane au minimum, qui vient teinter toute cette affaire-là?
Je pense que oui, mais c'est pas en soi un problème que nous puissions discuter de l'orientation multiculturaliste ou nationaliste de la chose, parce que forcément, d'un côté du débat, il y a ceux qui, et ils sont généralement partisans de la loi 21, qui considèrent que pour créer un environnement davantage commun, le vœu de la majorité représentant une certaine nation, eh bien que ceci doit avoir du poids et que ceci justifie, par exemple, le recours à la clause dérogatoire. Il peut y avoir d'autres raisons d'utiliser la clause dérogatoire, mais fondamentalement, derrière l'argument, au-delà de la laïcité, il y a l'idée qu'il y a une nation qui parle à travers cette loi. Si on prend le point de vue multiculturaliste, ben il y a une certaine, c'est pas absolu, là, mais une certaine négation de la légitimité de la nation qui parle à travers une loi et qui impose quelque chose à quelqu'un d'autre, une communauté, des individus, des employés. Et donc, c'est forcément présent, et c'est pas pour rien que dans le débat politique, il y a, oui, des nationalistes qui sont, pas complètement, mais majoritairement derrière la loi 21, et d'autres qui s'identifient à une orientation multiculturaliste, pas tous, mais certains, et qui sont contre la loi 21. Donc, je pense que c'est assez inévitable que les deux débats se rencontrent.
En deux secondes, Frédéric Bérard, parce qu'il faut qu'on passe à un autre sujet tout aussi intéressant.
Très rapidement, ben, deux choses qui me titillent avec ce que vient de dire Frédéric, c'est l'espèce de présomption que le juge en question va avoir un biais pro-fédéral par définition.
Non, mais c'est l'apparence de... Hein? Ben, vous savez bien, vous pourrez être juriste, que ça compte, ça aussi.
Ben, l'apparence. Je veux dire, voulez-vous que je vous sorte des décisions, moi, qui ont été ultra pro-identité au Québec en matière de langue, par exemple, ou en matière de charte québécoise tout court rendue par la Cour supérieure? Je veux dire, ça, il y en a des tonnes. Donc, c'est de présumer si on perd, on sait bien que c'est à cause du fédéral. Puis si on gagne, on va tout être excité. Ah, regardons ça comme on est bon. Bon, en tout cas.
Puis l'autre, mais moi, je pense que tu vas perdre, Frédéric. Fait que,
on va être contre-juge sur ce sujet-là, en effet. Je peux pas me prononcer là-dessus, mais la dernière affaire, très rapidement, Nick, qui m'achale un peu, laissez faire cette étiquette-là, multiculturaliste. Je parie que si je faisais un référendum avec vos auditeurs, là, puis il y avait, je sais pas, disons 10 000 personnes qui écoutaient, j'aurais à peu près 10 000 réponses différentes. La réalité, là, c'est que le recours ici est notamment entrepris en vertu de la liberté de religion de conscience et du droit à l'égalité. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes musulmanes qui, à 90%, vont casquer en rapport à cette loi-là.
En tout cas, du moins celles qui choisissent le port de signes religieux ostentatoires. Il faut faire attention de ne pas mettre tous les musulmans dans le même panier, n'est-ce pas?
Il n'y a pas d'ostentatoire là-dedans, premièrement. Puis deuxièmement, sur la question de la discrimination, moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui nous a dit, un juriste, « Ben non, c'est pas discriminatoire, ça s'applique à tous les signes religieux. » Ça, comme argument, je trouve ça d'une absurdité totale, parce que la discrimination en droit, qu'est-ce qu'elle empêche? Elle empêche de faire des inégalités de traitement. Or, dans ce cas-ci, on vous dit que la religion...
Non, mais Frédéric Bérard, ce ne sont pas... je comprends que le terme signe religieux ostentatoire ne vous a pas convenu, mais ce ne sont pas, bref, toutes les femmes musulmanes qui choisissent de porter le voile, par exemple, disons-le plus simplement.
C'est bien, mais c'est parce que la liberté de religion, si tu dis, hey, elle va s'appliquer en autant que tu la pratiques pas, ben on te souvient de la garrocher aux poubelles, puis de répudier tous les engagements internationaux auxquels Québec a souscrit par ailleurs, notamment en 65 avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en disant ben, on n'en veut plus de ça, nous autres, on s'en fout de la liberté de religion. Soyez honnête jusqu'au bout, parce que me dire non, ça s'applique aussi aux catholiques. Avez-vous déjà vu ça, vous, un catholique qui se promène avec une croix de 2x4 dans le cou?
Ah, ben il y a eu des sœurs, des frères, avec toutes sortes de vêtements religieux, mais là, on va une chance que ça vous tentait pas d'en parler.
Devant le juge, l'enjeu de la discrimination en est un, et il est à mettre en relation avec d'autres objectifs du législateur ou d'autres principes.
Donc, ah, parfait. Une parole rassembleuse pour terminer. Changeons de sujet, si vous voulez bien. Même si vous ne voulez pas, on va changer de sujet quand même. Un petit tour par... détendons-nous un peu. La petite vie... cette semaine, dont on a vu alors un épisode dans lequel Norman Brathwaite jouait un intellectuel ougandais, un sociologue ougandais, je crois, totalement déjanté et caricatural, comme c'était toujours le cas d'ailleurs de tous les personnages dans cette série-là. Donc, l'épisode en question a été d'abord retiré par Radio-Canada du site de Tout.tv et suite à un commentaire, dis-je bien, un auditeur quelconque, avant de finalement le remettre en ligne assorti d'un avertissement. Frédéric Lapointe, est-ce que on est encore là dans cette espèce de spectacle de la nouvelle censure au nom de la bonne morale inclusive? Est-ce qu'on va en sortir à un moment donné?
Oui, vous allez toujours me trouver un peu jovialiste. Mais je suis conseiller pédagogique dans la vie, donc j'aime que les gens apprennent de leurs erreurs. Et dans le cas de Radio-Canada, dans ce cas-ci, ben, je pense que c'était une erreur que de bouger trop vite, mais ça a eu le bénéfice de créer une discussion et un débat sur la question des œuvres qui peuvent être datées ou qui peuvent être reçues de façon différente, et qu'il y ait des hauts cris ou que les gens mettent du temps avant de se poser et que les nouvelles normes se mettent en place. C'est aussi assez normal. Mais je pense qu'on n'a pas à craindre pour nos trésors nationaux qui peuvent être perçus là, de préjugés, de maladresse ou de faute de goût. Je pense que le vent tourne sur ce sujet et qu'après quelques maladresses du type de celle de Radio-Canada, on verra de moins en moins là, des gestes motivés par la peur du candidat-on, comme c'est manifestement le cas là, pour la décision un peu hâtive là, de Radio-Canada.
Alors, un point de vue apaisé de Frédéric Lapointe. Frédéric Bérard, ça va vous plaire, ça? Ou est-ce que vous pensez, vous, que qu'il y a un problème et qu'il n'est pas réglé?
Moi, je ne pense pas que le problème soit réglé. Ceci, je suis d'accord avec la lecture de Frédéric, absolument. Mais je pense que c'est une tendance qui est quand même lourde. Irréversible, je ne sais pas évidemment, mais très, très lourde. Regardez, il y a eu des profs d'Ottawa là, qui se sont fait ramasser à coups de 2x4, qui se sont fait arrêter de racisme. Ça a été
les 2x4, c'est une image, on comprend. Oui, d'accord.
En attendant les vrais.
Oui,
exact. Et à Concordia, on a banni l'utilisation d'ouvrages. De Pierre Vallière, bon, celui de Daniel Laferrière devrait suivre. Des commissions scolaires ont emboîté le pas. Et c'est drôle, il a fallu qu'on s'attaque à Timé et ses vidanges là, pour que l'opinion publique se réveille.
Bon, ben, oui, en même temps, l'opinion publique était déjà un peu conscientisée là-dessus. Là, ça fait recette, ces nouvelles-là d'animatrices de CBC qui perdent leur emploi parce qu'elles ont prononcé le titre du livre de Pierre Vallière ou cette professeure de l'Université d'Ottawa dont vous venez de parler. Ça faisait quand même déjà réagir les gens. Mais là, contrairement à ce que dit l'optimiste Frédéric Lapointe, on dirait que là, le phénomène au Québec par la petite vie. Là, hein? Là c'est on a eu Canada et Slave, là, mais...
Je ne le disais pas de manière méprisante, au contraire, tant mieux, parce que ça élargit, je pense, le débat, si je peux appeler ça comme ça, alors que un truc d'universitaire à Ottawa, c'est quand même assez niché, idem en Fortaison, à Concordia, où ça se passe en anglais. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que cette tendance-là, elle est excessivement pesante. Et elle me fait craindre, honnêtement, parce que le contenu, si je peux dire le fond, de l'essence du mouvement woke, je suis pas nécessairement en contre. Hein. Johnny McDonald aux poubelles, OK, moi, ça me va. On y rendra quand même pas hommage. Mais la manière d'agir, par contre, ça, c'est le processus d'application de l'essence, ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est une, on le dit, hein, c'est une théorie de l'annulation. On t'annule, on t'efface, crime-scram. On l'a fait avec, bon, la petite vie, et ainsi de suite. Et cette espèce de « je vais décider qui a le droit de parole et qui a le droit de dire quoi, puis si t'as dit telle affaire, puis si t'as caricaturé, puis c'est moi qui décide », c'est du terrorisme intellectuel, cette affaire-là. Et comme dans n'importe quel cas de figure de terrorisme, t'as pas besoin d'en avoir une tonne pour faire peur aux gens. Et dans ce cas-ci, je suis certain qu'il y a une tonne de profs qui ne parleront plus jamais des œuvres de La Ferrière, jamais des œuvres de Vallière, justement pour s'éviter qui est arrivé. Et eux vont te dire, ah ben voilà, on a créé des alliés. Moi, je pense pas que tu as créé des alliés, tu as terrorisé des alliés potentiels qui maintenant se ferment la gueule de crainte de perdre leur job. C'est pas la même chose.
Alors, et vous avez aussi le phénomène, sans doute, de ceux qui, par réaction, voudront en parler plus que jamais et peut-être être maladroit dans ça et provoquer. Ou, ça, c'est un autre problème. Mais justement, faisons le pont, Frédéric Lapointe, vers, dans le même registre, cet accrochage cette semaine entre Jean-François Lisée et les partisans dont fait partie Frédéric Bérard de Maïté Labrecque-Saganache. Alors, cette jeune elle est militante quand même, je pense, autochtone, qui faisait partie d'un vidéo faisant l'explication et la promotion du concept de racisme systémique destiné par Télé-Québec aux étudiants du secondaire. Et M. Lisée a dénoncé cette vidéo par quelques tweets. C'était pas il n'y avait rien là-dedans de violent ou d'ordurier. Là, M. Lisée disait il s'opposait à ce qu'on montre ça aux étudiants parce que, dit-il, c'est un débat qui n'est pas encore réglé, c'est un concept auquel on n'est pas obligé d'adhérer. Mais il y avait dans ses tweets une photo, une capture d'écran, si vous voulez, sur laquelle on voyait Maïté Labrecque-Saganache qui s'est vue, bien sûr, couverte d'insultes et de propos injurieux et de peut-être de menaces et je ne sais trop. Suite à ça, vous avez eu Fabrice Ville et Judith Lucier dans la presse qui appellent maintenant les politiciens et les gens qui s'expriment dans l'espace public à plus de sensibilité, disent-ils. On comprend que ce qu'ils sont en train de dire, c'est que M. Lisée n'aurait pas dû montrer du doigt Maïté Labrecque-Saganache. Mais là, est-ce qu'on est pas, on n'ouvre pas la porte à la censure encore? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de se débarrasser ou de combattre ce phénomène de l'intimidation sur les réseaux sociaux?
Moi, je pense qu'il faut dénoncer l'intimidation, les commentaires ouvertement racistes qui ont pu avoir cours sous le tweet de Jean-François Lisée. Tout ça doit être dénoncé. Je pense qu'il faut être aussi prudent dans l'usage de la parole publique. Je me souviens qu'avant l'attentat, dont Pauline Marois a presque été victime, il y avait des discours limite haineux sur de nombreuses radios anglophones à Montréal. Alors, pris séparément, chacun de ces discours-là ne pose pas nécessairement de problème, mais finissent par encourager la prise de parole de gens un peu plus dérangés. Donc, je pense qu'il faut être responsable, il faut être prudent. Est-ce que Jean-François Lisée a dépassé une ligne? Je ne pense pas, mais je pense qu'il faut être prudent. Par ailleurs, qu'on soit un militant de la cause autochtone parce qu'on l'est ou qu'on est militant de la cause autochtone même quand on ne l'est pas, à un moment donné, on rentre dans la cour des grandes personnes. Et dans le combat des idées et dans le débat public, ben, on ne peut pas demander à ce que les autres acteurs se taisent ou à ce que les autres acteurs ne contestent pas ce qu'on avance ou même s'opposent à notre intérêt ou à la pénétration de nos idées à gauche ou à droite, à Télé-Québec ou via les écoles. Ça fait partie du débat public et il faut accepter ce qui vient avec. Et c'est vrai pour tous les acteurs, que les acteurs soient de jeunes femmes ou de vieux monsieur. Là.
Alors vous, Frédéric Bérard, qui n'êtes pas l'expert des pincettes, est-ce que Jean-François Lisée aurait dû prendre des pincettes? Est-il à blâmer dans cet épisode?
Ben, deux affaires. Premièrement, Nick, c'est drôle parce que quand on parle d'une chroniqueur de gauche, souvent on les appelle les militantes. Hein? C'est ils militent là. Comme,
ben moi, je prenais pas ce terme-là pour de non, façon non, péjorative. Il m'a semblé qu'elles militent effectivement.
Oui, je sais que ça vient pas de vous, mais c'est parce que les chroniqueurs identitaires aiment bien dire que celles qui chroniquent de l'autre côté sont des militantes, alors que sont des chroniqueurs.
Ça milite de deux bords. Oh,
oui. une certaine objectivité. Oui. Mathieu Bocoté, c'est pas un militant. Ça, on sait bien, c'est un analyste parfaitement neutre de la chose politique.
Ah, je pense qu'il vous dirait qu'il serait pas en désaccord avec vous. Je me souviens d'avoir entendu en onde dire qu'il milite lui aussi.
Parce que dans la question des qualificatifs, évidemment que Mathieu dit très bien qu'il milite, il s'en cache pas, c'est la moindre des choses. Mais ça serait bien d'éviter d'ostraciser l'autre partie en disant ah, ben c'est normal, à eux ils militent, on comprend bien. Et donc ils n'ont pas cette objectivité que moi-même je peux avoir. Mais une fois qu'on a dit ça, l'autre volet, ce qui me fait rire un peu avec le truc de Lisée et compagnie, ou parce que j'étais de leur côté là, sur la question de la théorie de l'annulation de la liberté d'expression récemment avec les caricatures de Mahomet et ainsi de suite, mais c'est qu'ils reproduisent exactement de l'autre côté le processus qu'ils dénoncent. C'est-à-dire que, ah oui, toi tu défends le racisme systémique, ben je vais te sauter d'en face. Puis idéalement, ta capsule à Télé-Québec, j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas. Moi,
non, mais attendez, raciste. Oui, mais ils n'ont pas dit « vous devriez vous taire ». Mais je comprends ce que vous voulez dire. Donc, ben, ils ne voulaient pas qu'on aille montrer ça à l'école. Mais
On a accusé Télé-Québec d'avoir diffusé un truc sur le racisme systémique. Et Élisée a même dit, moi, je pourrais bien faire un projet sur le fait que la Terre est plate. Donc, dans sa tête, là, l'analogie tiendrait la route en fait une patente qui est où la Terre est plate et le racisme systémique qui est reconnu partout en Occident, par Biden, par Doug Ford, par tout ce qui existe, sauf François Legault, Jean-François Lisée et une couple d'autres. Ça, on pourrait pas le montrer. Mais si c'est pas de l'effacement, je me demande c'est quoi. Puis en plus, on rajoute une bonne couche de dérision, pour pas dire de mépris intellectuel total, en disant c'est équivalent au fait de prétendre que la Terre est plate. Et sérieusement, là...
Ah oui, mais là, Frédéric Béra, vous savez ce que c'est faire des images et des fois être un peu croustillant. Vous êtes pas mauvais là-dedans, vous-même.
Il faut bien les choisir, Nick Payne, parce que si vous comparez le racisme systémique à des débiles légers, pour pas dire profond dans bien des cas, ben là, ça pourrait que ça ressemble à la théorie de l'effacement, surtout quand tu demandes à la télé publique québécoise de ne pas diffuser ce genre de conneries-là.
Bon, il faut qu'on se quitte là-dessus parce qu'on a une émission à compléter, nous, avec d'autres sujets, mais cher duo des Frédéric, c'était très, très délicieux de vous entendre ce midi. Voilà, un nouveau mot. Et c'est le mot de la semaine, comme on dit parfois ailleurs. Et en vous saluant, merci d'avoir participé à cette discussion ce midi. Salut. Chers auditeurs, dans un instant, Christian Dufour nous explique que nous ne sommes pas Américains. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, il est politologue, il a été chercheur et professeur à l'École nationale d'administration publique pendant une vingtaine d'années. Il est juriste également et auteur. Vous pouvez lire ses ouvrages, dont le plus récent qui s'appelle « Le pouvoir québécois menacé non à la proportionnelle ». Mais encore, vous avez aussi « Les Québécois et l'anglais, le retour du mouton ». Ces deux ouvrages-là ont été publiés aux Éditeurs Unis. Et puis, vous pouvez le voir aussi à RDI, notamment, commenter l'actualité politique. Je parle de Christian Dufour. Bonjour, Christian Dufour.
Bonjour, Nick.
Alors, vous avez publié, fait paraître cette semaine, le 11 novembre, dans la presse, ce texte intitulé « Nous ne sommes pas des Américains », au sens états-unien du terme, sans doute, là, ici, parce qu'on est sur le continent américain quand même, nous, les Québécois. Vous avez écrit ça avec comme point de départ cet entretien téléphonique entre Justin Trudeau et le président américain désigné Joe Biden, un entretien dans lequel... Justin Trudeau a manifesté, semble-t-il, sa volonté de combattre le racisme systémique, le racisme à l'égard des personnes noires, particulièrement au Canada. Et ça vous a tiqué. Vous, expliquez-nous un peu le sens de votre intervention.
C'est ça. En fait, c'était le premier appel téléphonique de M. Biden, le président américain, il semble-t-il élu, à un chef d'État étranger, en tout cas chef de gouvernement étranger, c'était à M. Trudeau. Et ça, pourquoi j'ai réagi, c'est que M. Trudeau a dit qu'il avait discuté avec M. Biden de dossiers intéressant les deux pays, comme le racisme à l'égard des Noirs. Donc, j'en ai conclu qu'il a fait une analogie entre la situation au Canada, du racisme à l'égard des Noirs, et la situation aux États-Unis. Et c'est franchement aberrant. Et ça confirme une tendance très lourde, très inquiétante, en fait, de l'américanisation de la culture politique canadienne et québécoise, qui est accentuée, évidemment, par l'obsession un peu morbide qu'on a tous eu depuis 4 ans pour le phénomène de Donald Trump, puis la dernière élection présidentielle. Tout le monde l'a suivi. Parce que s'il y a quelque chose qui est spécifiquement américain, c'est bien le dossier du racisme à l'égard des Noirs. Il reste que le racisme est au cœur de l'aventure nationale américaine depuis ses origines. Il y a eu une guerre de sécession qui s'est jouée sur la question de l'esclavage. Il y a beaucoup d'États du Sud qui, par la suite, ont adopté des législations ségrégationnistes. Donc, les Noirs au Canada, c'est pas la même dynamique. Les équivalents, en fait, des Noirs américains au Canada, ce sont les Autochtones. Moi, c'est ce que je prétends. Si on veut à tout prix utiliser le concept de racisme systémique, là, qui fait l'objet de débat, ça concerne les Autochtones. Parce que les Autochtones canadiens, bon, il y a eu une loi fédérale sur les Indiens qui est très vieille, un système de ségrégation, d'apartheid, en fait, qui a concerné les Autochtones. Mais là, il y a une espèce d'alignement du Canada sur les États-Unis dans un dossier complètement pourri aux États-Unis. Faut-il le dire qu'aux États-Unis, c'est très inquiétant, l'évolution du dossier du racisme, il y a de la violence, c'est virulent. Et là, le premier ministre du Canada essaie de faire en sorte que on fasse un parallèle. Ben, je trouve ça aberrant et inquiétant. Vraiment, parce qu'on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des États-Unis en matière raciale? On avait tendance à désigner le Canada du côté anglophone en disant c'est le pays de peace, order and good government. La paix, l'ordre et le bon gouvernement. Une société pacifique. Et là, on est à côté d'une méga puissance qui manifeste d'énormes dysfonctionnements marqués par la violence, tout ça. Puis là, dans le dossier qui est au cœur de cette... vous voyez un peu mon point. Je trouve que c'est profondément inquiétant.
Mais c'est une puissance qui, et certains théorisent ça en ce moment, qui est en train son impérialisme est en train de se muter, de se transformer à travers la puissance d'Internet, des réseaux sociaux et des fameux GAFAM, là, Google, Amazon et les autres, Facebook et compagnie, qui servent de haut-parleurs extrêmement puissants à l'anglais et à la culture américaine. Et vous écrivez votre texte au moment où on venait, comme vous le dites si bien, de passer la semaine, sinon des mois et des années à ne parler que des États-Unis et de Donald Trump. Et là, vous dites... puis juste avant de vous parler, on discutait avec mes invités précédents du concept de racisme systémique. On aurait pu parler du privilège blanc, de la fragilité blanche, de la culture du viol et de toutes sortes d'autres concepts qui viennent de la gauche américaine, des campus aux États-Unis. Est-ce qu'on peut arrêter, est-ce qu'on peut endiguer, nous, le Québec, ce phénomène d'américanisation des esprits?
En fait, c'est drôle, ça m'a ramené depuis la publication de cet article-là dans la presse, je me suis mis à réfléchir. Au-delà du Québec, il y a aussi le Canada anglais. Et ça m'a rappelé, en fait, un livre que la plupart des auditeurs connaissent peut-être pas, mais c'est bon qu'on le rappelle. C'est le classique de George Wendt, Lament for a Nation. George Wendt, c'est un des plus grands auteurs politiques du Canada anglais. En 1965, il a écrit un livre où il parlait de « Est-ce la fin du Canada? Lamentation sur l'échec du nationalisme canadien. » Dès 1965, puis c'était dans un dossier où les libéraux de Pearson avaient accepté, en fait, que le Canada entrepose des missiles nucléaires américains sur notre territoire. Il y avait tout un débat entre les conservateurs et les libéraux là-dessus. Et George Wendt, vraiment dans un livre coup de cœur, qui est vraiment un des livres les plus importants du Canada anglais, voyait une espèce de fin du Canada. En disant, historiquement, il y avait un projet national canadien. Il parle des Canadiens français, de la dualité canadienne. Puis il y avait une espèce de différence avec les États-Unis. Et lui, il voyait une américanisation pratiquement inéluctable du Canada, de la culture politique canadienne. Le Québec étant la partie qui résiste le plus longtemps à cause de la langue. Et moi, cette semaine, je repensais à ça. Je disais, même au Québec, c'est rendu. Vous savez, la plupart des commentateurs bien pensants, depuis quelques semaines, ont littéralement harcelé le premier ministre François Legault, puis pour qu'il reconnaisse l'existence du racisme systémique de façon extrêmement légère et irresponsable, parce qu'il se limitait dans l'émotion du moment, la moralisation du moment, sans passer aux conséquences qui découleraient de ça, de la reconnaissance par le premier ministre du Québec du racisme systémique. Donc même au Québec francophone, on est pénétré par ça. Donc je veux pas être juste pessimiste, mais je dirais que l'américanisation de notre culture politique atteint des sommets insoupçonnés. Et il faut lutter contre ça, surtout dans le domaine du racisme, entre vous et moi, là, parce que qu'on soit américanisé, on le sait bien, à de multiples égards. Mais moi, quand quand j'ai entendu M. Trudeau dire, ben écoutez, j'ai parlé à M. Biden de problèmes communs comme le racisme avec l'Antilles noire, j'ai dit, hey, même dans ce dossier-là, qui est au cœur du fuckage américain, si vous me permettez l'expression, notre premier ministre n'est même pas capable de maintenir une ligne canadienne différente.
Ben, justement, regardons la question que je vous ai posée sur le Québec de l'autre côté, si on veut. En même temps, votre propos dans votre texte, quand vous dites « nous ne sommes pas américains », notre histoire n'est pas fondée sur le racisme et le reste. En même temps, ce que vous dites s'applique surtout, ou bien davantage, au Québec, non? À la réalité québécoise, surtout maintenant que le Québec est moins influent que jamais à l'intérieur du Canada, ce qui permet au reste du Canada, d'une certaine façon, de s'américaniser encore plus facilement, puisque le Canada est un satellite de l'Amérique anglaise ou anglophone bien plus que ne le sera à court terme, en tout cas le Québec, non?
Oui, forcément. Puis c'est révélateur que c'est au Québec qu'il y a une résistance quand même à ça. On l'a vu dans tout le débat là, sur l'utilisation du mot nègre dans un contexte non péjoratif, où c'est juste au Québec qu'il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit, écoutez, là, c'est bien beau, là, mais on a le droit de prononcer les mots qui existent historiquement. Je disais ce matin dans la presse, un éditorial très intéressant de François Cardinal, sur ce thème-là, en fait, en disant il y a une nouvelle censure, en fait, qui vient des milieux woke américains, canadiens, anglais, et puis donc, le Québec résiste plus longtemps, si vous voulez, parce qu'on est francophone majoritairement, donc la laïcité comme concept est plus valorisée ici, bon, le racisme systémique, on est plus réticent, mais même au Québec, il y a une pénétration. Je reviens, la part des commentateurs, mon genre, pour eux, c'était évident qu'il fallait que le premier ministre du Québec reconnaisse le racisme systémique. Et puis, on a fait quasiment une maladie, si vous voulez. Mais le reste du Canada, c'est vrai. Le Canada anglais, au fond, George Gwynne, qui est décédé, là, j'ai vérifié, serait bien découragé. Parce que comme si le rouleau compresseur multiculturel a fait son travail dans le reste du Canada. Donc, quelque part, la culture politique là-bas est extrêmement américanisée. Et Trudeau, au fond, ce qu'il a dit, ça n'a pas choqué beaucoup de monde au Canada. Ben, je ne sais pas, peut-être que ça en a choqué quelques-uns. Moi, ça m'a choqué. Tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de parler avec le président américain du racisme. Est-ce qu'il lui a demandé des conseils?
Christian Dufour, on a beaucoup parlé de vos premiers ouvrages. Je cite le troisième là, qui s'appelait « Lettres aux souverainistes québécois et aux fédéralistes canadiens qui sont restés fidèles au Québec ». Vous avez étayé une pensée selon laquelle le débat sur l'indépendance du Québec avait nui d'une certaine façon au Québec parce qu'il avait antagonisé le Canada, il nous avait exclus d'une certaine façon du jeu, il avait pollué notre capacité de nous développer pour le mieux à l'intérieur du Canada, puisque de toute façon, on n'est pas capable d'en sortir. Est-ce que là, on n'arrive pas à une sorte de point de rupture? C'est-à-dire que la CAQ, par exemple, a un peu fait le pari de cette pensée aussi, en disant, bon, bien, dans ce cas-là, puisque l'indépendance n'est pas à portée de main, soyons de bons nationalistes à l'intérieur du Canada pour tirer le meilleur parti de tout ça. Et là, on voit qu'on est en train de se faire américaniser en passant par nos voisins de l'Ouest. Est-ce que ça vous ébranle dans votre vision des choses?
C'est-à-dire que moi, pourquoi j'ai critiqué la dérive souverainiste à un moment donné, c'est que je trouvais que ça nous éloignait de la réalité, et puis la réalité me semblait que la majorité des Québécois francophones voulaient rester dans le Canada. Il me semble que c'est velléitaire, en fait, le mouvement souverainiste, parce qu'au fond, il ne faut jamais oublier que les premiers Canadiens, ce sont les ancêtres des Québécois francophones. Je veux dire, c'est nous qui, c'est notre pays, en fait.
C'est ça. Je ne voulais pas vous dépeindre comme un anti-souverainiste ou un fédéraliste. Hein. C'est pas ça. C'est que vous étiez, en tout cas, nationaliste, mais vous disiez, on a assez perdu de temps.
Ouais. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis quand j'étais jeune, ça me semblait évident que le Québec devait devenir indépendant, là. On avait été conquis par les Anglais, puis bon. Mais sauf qu'après ça, j'ai réalisé que c'était pas tout le monde qui était comme moi. C'est pas tout le monde qui venait de Chicoutimi, puis qui avait cette vision-là, puis que les Québécois, globalement, ce qu'ils voulaient, en fait, c'est rester dans le Canada, mais sortir de la dynamique de la conquête, si vous voulez. C'est que changer la relation qu'on avait avec le reste du Canada, c'est pour ça, moi, que j'avais des réticences. Mais pour revenir à votre question de base, c'est vrai que là, on s'approche, en fait, d'un nouveau plancher. C'est quelque part ce qui est remis en cause là, par le système politique canadien de plus en plus américanisé. C'est un peu le cœur de l'identité québécoise. Donc, dans ce sens-là, ça peut arriver que ça... ça redonne une nouvelle pertinence au mouvement souverainiste. Mais ça peut arriver aussi. Si moi, je vous allais dire que je suis un optimisme invétéré à l'égard du Canada, mais moi, je n'exclus pas, comme on va dire, le bon sens québécois là-dedans influence le reste du Canada. Prenez par exemple dans le dossier de la loi sur la laïcité. Moi, j'ai beaucoup défendu la loi sur la laïcité, qui me semble être une loi modérée de bon sens. Bon, là, il y a un débat devant les tribunaux qui va aboutir à la Cour suprême. On ne peut pas exclure totalement, comme à un moment donné, les aspects modérés du Canada, parce qu'historiquement, le Canada avait un aspect modéré, l'emporte. Sinon, c'est quoi? Ça veut dire que le Canada, à toute fin utile, s'est tellement aligné sur les États-Unis que c'est notre perte. Mais c'est quand même troublant ce qu'on vit, je trouve, depuis quelques semaines. À quel point, depuis l'assassinat de George Floyd à Minneapolis, à quel point, ici, beaucoup de gens ont fait comme si ça s'arrivait au Canada.
Ben, oui, c'est ça. L'États-Unionisation de l'espace mental éclate au grand jour d'une certaine façon, plus que jamais, puis aussi à travers l'élection de M. Trump et tous ses supporters qui n'en finissent plus de ne vivre que par et pour ça. D'ailleurs, les supporters de M. Biden aussi, hein, par ailleurs, québécois, là, on les voit bien, ils sont très audibles, ils célébraient comme si c'était la fin d'une grande guerre, son élection. Mais dites-moi, je voulais éclaircir un truc avant qu'on se quitte très bientôt, Christian Dufour. Vous écrivez dans votre texte, si le racisme, je vous cite, si le racisme existe ici, au Québec donc, il n'est clairement pas au cœur de l'aventure collective québécoise comme aux États-Unis et, dans une moindre mesure, au Canada anglais depuis la constitutionnalisation du multiculturalisme. Vous êtes en train de dire que depuis le multiculturalisme, le Canada s'approche de quelque chose de raciste?
C'est-à-dire que la constitutionnalisation du multiculturalisme, ça a été une mutation, en fait, de la culture politique canadienne, où, en fait, on abandonne la reconnaissance du fait qu'il y a un tronc commun, hein, il y a une culture commune à laquelle les nouveaux immigrants sont invités à s'intégrer. Donc, à ce moment-là, c'est clair que des thèmes comme le racisme systémique ont beaucoup plus d'avenir dans une culture comme ça. Hein, c'est que le reste du Canada anglais s'est américanisé, je dirais, structurellement et constitutionnellement. Donc, historiquement, je ne crois pas que le racisme à l'égard des Noirs, qui existe, il faut le dire, il y a du racisme à l'égard des Noirs au Québec, il y en a dans le reste du Canada. L'idée n'est pas de nier ça. L'idée est juste de rappeler que ce n'est pas au cœur de l'aventure nationale québécoise ou même canadienne. Mais en 82, les Canadiens anglais ont abandonné quelque chose. Ils ont abandonné le fait qu'il y avait une gang, la gang de George Glenn, dont je vous parle tantôt. Là, mm-hmm. Hein? L'échec du nationalisme canadien, est-ce la fin du Canada? Donc, on a abandonné ça. Donc, on adhère à une vision où le pays est composé de toute une série de communautés, toutes égales les unes avec les autres. Donc, à ce moment-là, le racisme systémique, c'est un vivier où ça devient évident pour beaucoup de gens, ce genre de choses. Mais moi, je dois dire, Nick, pour se laisser sur une note un peu plus positive,
oui.
Parce qu'à un moment donné, moi, j'étais un peu découragé, je vais être franc, par l'aplatventrisme des élites francophones dans ce dossier-là. Je me disais, hey, mort ou vaincu, hein. Je te dis qu'on est aplatventre.
Dans le dossier du racisme systémique ou de...
Oui, du racisme systémique, toute la nouvelle culture woke qui vient des États-Unis, là. Mm-hmm. Et j'ai trouvé que, par exemple, à partir de tous les débats, là, sur le problème de l'Université d'Ottawa, là, le fait qu'on a voulu sanctionner l'utilisation du mot « nec » par professeur.
On l'a sanctionné, en fait.
Je trouvais qu'il y a une réaction au Québec plus forte que j'aurais pensé, moi. De beaucoup de monde m'ont dit « Hey, là, ça va faire. »
Y compris chez plusieurs gens de cette nouvelle gauche par laquelle nous est arrivé le mouvement « woke », là, oui.
Je reviens là-dessus, le texte de François Cardinal dans la presse, reste que la presse comme institution, bon, elle a tendance quand même à être progressiste, de gauche, tout ça, ben, je trouve que c'est très révélateur ce qu'écrit François Cardinal là, ce matin.
Oui, certains diront qu'il vient de...
Ça va trop loin et ça discrédite, en fait, ces causes-là auprès des progressistes modérés. Parce que là, il y a déjà une folie là-dedans, une folie totalitaire. Là. C'est le temps qu'on réagisse, en définitive. Universitaires, que des intellectuels, que des activistes, des rap. Bon, c'est dans la nature des choses. Mais moi, pourquoi j'ai écrit cet article dans la presse cette semaine? C'est que c'est le premier ministre du Canada là, qui dérape.
Qui, donc, fait sienne cette psychologie.
Prenez, par exemple, des amis. Moi, j'ai une amie noire qui m'a appelé pour en discuter de tout ça. Puis j'ai dit, bon, écoutez, on peut débattre de ça jusqu'à quel point il y a un racisme, une discrimination systémique. Le problème du mot raciste, c'est que c'est un mot très intense qui est porteur de violence. Bon, moi, j'aime mieux discrimination que raciste là-dessus. Mais que moi, je le reconnaisse ou pas, que vous le reconnaissez ou pas, c'est une chose. Mais quand un premier ministre le reconnaît, ça veut dire que ça structure le système. Ah, ça veut dire que c'est au cœur, justement. Donc là, Québec, on a bien des défauts, mais je pense pas que le racisme est au cœur de notre société.
Voilà, de belles paroles positives pour terminer. J'ai débaptisé votre éditeur. Ce sont les éditeurs réunis là, pour les deux plus récents ouvrages.
Vous êtes rigoureux. J'ai noté ça, mais je suis pas important. Je rectifierai pas.
C'est quelqu'un qui a été rigoureux pour moi qui m'a écrit pendant qu'on se parlait. Christian Dufour, c'est toujours un plaisir. Politologue, on peut vous voir à RDI, notamment, et un peu partout. Portez-vous bien et à une prochaine.
Merci de m'avoir invité. C'était une très belle conversation.
C'est un plaisir. Dans quelques instants, chers auditeurs, Nicolas Vidal, en direct de Paris, nous fait le point sur la situation française.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Il est le patron, le fondateur de Putsch Media et c'est un fin observateur de la politique et des actualités françaises. Je parle bien sûr de notre collaborateur que vous entendez souvent et à dans cette émission, Nicolas Vidal. Bonjour.
Bonjour, Nick. Bonjour.
Alors, quand on vous parle et quand on observe ce qui se passe en France depuis particulièrement le début de cette pandémie, ça nous donne parfois un aperçu de ce qui s'en vient ici. Alors là, ça nous donne un peu froid dans le dos parce que ça va pas tellement bien chez vous, non? Bon, les auditeurs me diront que les Français trouvent toujours que ça va pas bien chez eux, mais en tout cas, sur la pandémie, là, y a pas photo, comme vous dites. Les chiffres sont très mauvais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Et par ailleurs, vous avez toute une frange là, de la société qui est complètement exténuée par les mesures de confinement.
Oui, tout à fait, vous avez raison, Nick. Hein. C'est aujourd'hui... Alors, on va revenir rapidement sur le discours de Jean Castex. Vous savez, Jean Castex, c'est le Premier ministre qui continue à nous parler, qui vient derrière son pupitre, devant le drapeau français, le drapeau européen, et qui est venu nous dire jeudi soir dernier qu'on allait continuer le confinement, qu'il y avait un léger frémissement d'amélioration de la courbe, mais que tout ça ne valait pas et qu'il fallait continuer à mettre en place, vous savez, Nick, les distanciations sociales entre nous. Donc, il a dit qu'il fallait... Il fallait ne pas lâcher la bride aux Français. Donc, je ne sais pas, je pense que Jean Castex nous prend pour des chevaux, peut-être, parce qu'il a dit qu'il fallait encore tenir la bride. Ça dépend de savoir qui a au bout de la bride. Enfin, à première vue, c'est les Français, hein, puisque c'est le Premier ministre de la France. Et que son seul indicateur à Jean Castex était les données de la santé et la sécurité sanitaire des Français. Vous conviendrez avec moi qu'un Premier ministre doit avoir une vision plus globale, plus pertinente, justement, à la situation. Et Jean Castex, pour l'instant, s'accroche aux chiffres des cas, des décès et effectivement des gens qui passe, vous savez, un service de réanimation en France. Voilà un peu le discours de Jean Castex qui a fait bondir de rage les commerçants, les restaurateurs, les indépendants qui sont en train, je vous le dis tout de go, qui sont en train de mourir en France par dizaines de milliers aujourd'hui.
En tout cas, économiquement parlant, mais je sais que certains sont dans un mauvais état psychologique aussi, pour dire le moins. Mais dites-moi, Nicolas Vidal, est-ce que on a résolu le nœud gordien chez vous entre la critique des mesures prises par le gouvernement et la nécessité de combattre cette pandémie d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a des espaces là où il est évident que le gouvernement aurait pu agir autrement et mieux?
Alors, si vous avez dit, Nick, c'est un nœud gordien. Moi, j'appelle ça de l'incohérence qui confine, notez le mot, qui confine à l'incompétence. C'est-à-dire que quand vous avez une politique absolument incohérente, quand vous mettez des gens confinés, quand vous entravez la liberté liberté de produire, de travailler, d'exercer une profession. Je parle bien entendu des indépendants, je parle bien entendu des petits commerçants, je parle des restaurateurs, mais et que vous laissez les grandes surfaces ouvrir, que vous laissez Amazon et les GAFA continuer à faire leur beurre, finalement, à se goinfrer, comme on dit en France très trivialement, vous comprendrez bien que les mesures sanitaires ne sont, dans la mesure de l'acceptabilité, elles ne sont plus du tout reçues par les Français, par une grande majorité de Français, et je peux vous dire que Jean Castex se défend de dire l'ennemi n'est pas l'État mais le virus, l'ennemi n'est pas le gouvernement mais le virus. La réalité aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de cette France, finalement, vous savez, Nick, je vous en parle depuis 2 ans maintenant, de la France périphérique, cette France des villages, des petites villes moyennes, des petits commerçants que nous avons ici, ce lien social extrêmement fort, est en train d'être complètement distendu, voire assassiné. C'est un assassinat économique en règle, et je voudrais vous faire part de la réflexion de Raymond Soubi, qui était un proche de l'ancien président de Nicolas Sarkozy, qui était sur une grande radio vendredi matin, dans une grande matinale, qui disait « Les restaurateurs, les commerçants, les indépendants, ça va être les gilets jaunes puissance 100 ». Donc vous voyez, effectivement, pour répondre à votre question, le gouvernement n'a pas de lisibilité sur ce qui se passe parce qu'on sent toute l'incohérence. Je finis là-dessus très vite. J'étais ce matin dans une grande surface et je peux vous assurer que c'était noir de monde, partout, dans les caisses, dans les allées, les caddies sont trop choqués, il fallait essayer de jouer des coudes pour se faufiler. Comment voulez-vous comprendre qu'on ferme le petit commerce indépendant qui croule sous les charges et qu'on laisse ouvert les grandes surfaces à la périphérie des villes, des moyennes villes et des villages? Voilà, grosso modo, sur cet exemple-là, toute l'incohérence politique de ce gouvernement qui est en train de s'affronter très sincèrement à une fronde sociale de grande ampleur avec beaucoup de manifestations aujourd'hui de commerçants et de restaurateurs dans les grandes villes, Nice, Marseille, Paris, plus précisément aussi à Belfort. Donc c'est en train de monter un peu, ça me fait penser, je vais vous le dire, un peu aux gilets jaunes du début de novembre 2018. Il y a une fronde qui se met en place et qui est en train de se structurer autour de revendications qui me semblent, moi, légitimes.
Alors vous aviez, début novembre, jusqu'à 80 quelques mille cas, est-ce que c'est par jour? Je n'ose le... Et maintenant 35 000, donc ça redescend, 23 000 hier. Alors c'est ce dont parle le premier ministre Castex. Parlons en termes de légère amélioration. Là. Parlons-en de la situation politique. Le premier ministre est en baisse de popularité nette. Emmanuel Macron, lui, se maintient dans les 38-40%, quelque chose comme ça. Il y a une présidentielle qui s'approche tranquillement, là, Nicolas Vidal. Est-ce qu'on peut imaginer un changement politique en France?
Ça va être, pour l'instant, c'est très compliqué. On a la déconnexion déjà de notre classe politique. Vous avez François Hollande, ancien président de la République, qui revient sur le devant de la scène, qui nous refait des selfies sur Instagram, qui commence à nous dire qu'il est en train de réfléchir à une formation politique pour 2022. Vous avez Manuel Valls, qui était ancien Premier ministre, qui est allé prendre une fessée à Barcelone.
Comme maire, il voulait être maire de Barcelone, oui.
Voilà, il a pris une fessée à Barcelone après avoir pris une grosse gifle en France, et le voilà de retour maintenant sur les plateaux télé où on lui donne finalement du grain à moudre pour nous expliquer qu'il connaissait la situation de la France et qu'il peut changer. Donc finalement, on a déjà les anciens qui reviennent, on a les présents qui sont toujours là. Jean Castex, oui, il est en perte de popularité, mais très sincèrement, Jean Castex est un technocrate qui applique une politique, je l'appelle l'aide de camp, Jean Castex, je l'appelle l'aide de camp Castex, moi.
Castex, comme dans casting, c'est un casting, comme disent les Chinois.
Bien sûr, c'était, vous savez, c'était une espèce d'alchimie entre la technocratie absurde et puis le maire de terroir, le maire de Pyrénées-Orientales, quelqu'un qui a un accent en VDR et qui roule pour montrer que finalement le Premier ministre s'occupe très grandement des petites gens de la France périphérique, nous Français moyens, mais finalement cette alchimie ne sert pas puisqu'on voit bien...
Mais a-t-il aussi été choisi pour un peu moins porter ombrage au président, ce qu'on reprochait peut-être à Édouard Philippe auparavant?
Bien entendu, les mauvaises langues vous diront que finalement, son peu de charisme, mais c'est le moins que l'on puisse dire, on ne porterait pas ombrage à Emmanuel Macron et ne lui ferait pas d'ombre pour une éventuelle... Il va se représenter, Emmanuel Macron, mais je peux vous assurer, Nick, que la situation sociale en France, je le dis souvent, mais elle est vraiment extrêmement explosive. Notez que depuis le début du confinement, depuis le début de la crise sanitaire, pardon, de la Covid-19, ce sont près de 800 000 emplois qui vont être détruits, qui sont déjà en passe d'être détruits, avec plus de presque 700 000 nouveaux chômeurs. Vous imaginez imaginez ces chiffres sont absolument dantesques, ils sont effrayants. Donc il y a les chiffres de la Covid, hein, bien entendu, vous en avez parlé, Nick Payne, mais il y a aussi les chiffres de l'emploi, les chiffres du chômage. Bridgestone en France, qui a donné une fin de non-recevoir à Agnès Pannier-Runacher, qui est notre secrétaire d'État à l'économie, qui a renvoyé dans les cordes à ses chères études Bercy, qui avait proposé Bridgestone à une grande entreprise rapidement dans le nord de la France, qui emploie 863 personnes. Ils veulent fermer pour délocaliser en Hongrie et en Pologne, et Bercy leur a proposé des plans de sauvetage, des plans de remaniement finalement, et la direction de Bridgestone leur a dit merci messieurs, il n'y a rien à voir, ils ont fermé le rideau. Agnès Pannier-Runacher est sortie du bureau et a annoncé à la presse que c'était fini. Voilà un peu la situation de ce pays où l'État finalement n'a plus la main sur la propre économie, sur les grands groupes qui sont sur son sol.
Terminons en deux minutes, Nicolas Vidal, le tour d'horizon politique. Qu'advient-il du Rassemblement national? Est-ce que le fameux plafond de verre dont on parle parfois dans son cas, l'espèce de plafond qui est constitué de cette impression d'incompétence qu'on a, notamment à l'égard de Marine Le Pen, il faut bien le dire. Est-ce que ça change, ça? On a vu récemment, je crois, des proches collaborateurs quitter encore le Front National,
Jean Messia.
Oui, voilà, qui était une sorte de plus ou moins de vedette montante là, du Rassemblement national, non? Qui quitte en disant « nous ne sommes pas sérieux ».
Ouais, je l'appellerai la tête pensante qui dépasse. Vous savez, quand ça dépasse, généralement, c'est comme les haies dans un jardin, on essaie de les couper pour éviter que ça dépasse trop. Eh ben, le Rassemblement national, c'est le rêve, le doux rêve d'Emmanuel Macron et des grands médias mainstream français de proposer aux Français ou d'imposer aux Français un second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je crois que la situation aussi dans nos quartiers dits sensibles, avec beaucoup de pluriminorité, ces quartiers dits sensibles sont en train de s'enflammer. Beaucoup, beaucoup de quartiers, les soirs connaissent effectivement beaucoup d'insécurité, beaucoup d'agressions de policiers. Vous avez aussi des attentats. Et il pourrait se former une coalition. On parle de Pierre Devilliers, le général qui revient avec un livre. On parle aussi des souverainistes, Philippot, Dupont-Aignan, toute une série de gens. Les cartes ne sont pas aussi bien distribuées. C'est le temps long jusqu'en mai 2022. Il pourrait se dessiner. Marine Le Pen pourrait être débordée finalement par un peu plus de compétences sur les questions de souveraineté, d'identité, de sécurité, d'immigration, par peut-être une coalition, vous savez, Nick, ce fameux Tea Party qui était né aux États-Unis il y a quelques années. Peut-être qu'un petit parti français pourrait se monter autour d'un grand clan souverainiste et peut-être voler la vedette à Marine Le Pen. Mais ça, c'est encore trop tôt pour en parler parce que les choses sont en train de bouger, mais en profondeur. Et très sincèrement, je serai en mesure de vous en dire plus dans quelques semaines probablement. Mais les choses bougent, ça, c'est sûr.
Est-ce qu'on imagine Marion Maréchal partie prenante
Alors, si on veut faire une analyse d'une minute là-dessus, Marion Maréchal Le Pen, son grand défaut, ce qui me concerne, ce que je pense comme analyse politique, c'est qu'elle ne veut absolument pas sortir de l'Union européenne. Et vous connaissez ici, les Français ont de plus en plus compris, finalement, estiment que l'Union européenne dessert totalement la politique de souveraineté de notre pays, notamment sur les extérieurs de santé, enfin, on l'a vu sur la crise du Covid. Et Marion Maréchal, elle, n'arrive toujours pas à faire le pas de se sortir. Pour ça, vous parlez de ce gros mot en France, le Frexit, enfin, le gros mot pour les élites néolibérales, le Frexit. Et Marion Maréchal Le Pen, aujourd'hui, l'Union européenne, elle continue à la considérer. Donc je pense que ça, c'est son bas faible, en fait, finalement. C'est sa grosse faiblesse, Marion Maréchal. Mais peut-être une nouvelle fois que les choses pourraient changer de ce côté-là. Je vous dis, c'est très mouvant ici en France, mais à mon avis, Marine Le Pen va avoir beaucoup de mal à ne pas se faire déborder de tous les côtés, par en dessus et par en dessous.
Nicolas Vidal de Putsch Media, en direct de Paris. Remettez votre masque, protégez-vous, ne retournez plus dans les grandes surfaces, surtout.
Merci beaucoup, Nick.
À une prochaine, chers auditeurs. Nick Payne qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Société. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute. On apprécie vous savoir juste de l'autre côté du fil. À la prochaine.